mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah. Parce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon, on entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission un peu spéciale puisque c'est notre 12e et donc celle qui marque pour Dicoty un an de présence sur les ondes. Et pour cette émission de décembre, on a longuement échangé avec Michael, rencontré au séminaire de Salagon, dont on a déjà parlé ici, où il avait présenté son travail autour des morts forestières sur son terrain de recherche, dans lequel il explore, en anthropologue, les relations entre les humains et les arbres, entre les morts et les vivants, entre les individus et le collectif, en s'intéressant à ce que la mort d'un arbre veut dire et à ce qu'elle dit de nous.
Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité. Très heureux de passer papoter à Marseille. Moi, je suis habitant du Livradois, donc un territoire forestier à l'est de Clermont-Ferrand. Je travaille sur les questions forestières dans le cadre d'une thèse en anthropologie dans laquelle je passe la plupart de mon temps dans ce même territoire. On va appeler ça le Livradois Forez, donc sur un parc naturel régional qui est composé à peu près à 60% de forêt, ce qui veut dire qu'on a une majeure partie des lieux qui se sont enforestés, donc il y a tout un contexte qui est lié à l'exode rural et qui est justement un phénomène très marquant dans le Massif central, en tout cas sur une centaine d'années. Et bref, territoire enforesté et dans lequel on a du coup à peu près presque 100 000 habitants malgré tout, où la forêt tient une place prépondérante, parce que c'est le massif le plus productif d'Auvergne-Rhône-Alpes, voire un des plus productifs de France.
Quand tu dis que c'est des forêts productives dans le Livradois, ça veut dire que c'est des forêts qui sont destinées à être coupées ? Enfin, c'est quoi une forêt productive ?
Tout à fait, c'est des forêts qui sont destinées à être coupées dans la majorité des cas. Mais là, en l'occurrence, on a pour la plupart du temps des forêts qui sont issues donc, de futaies régulières. Ça veut dire que c'est des arbres qui ont tous le même âge. Et donc ça dépend, soit c'est des arbres qui ont été plantés, donc dans le cadre de missions de reboisement, donc qui ont commencé déjà à la fin du 19e siècle. Donc on avait commencé à installer des épicéas, voire aussi quelques sapins. Donc c'était beaucoup le cas plutôt, fin du 19e, c'était la restauration des terrains de montagne. Donc ça s'est beaucoup plus passé dans les Alpes et dans les Pyrénées, mais c'était déjà le cas dans le Massif central. Et surtout, on a énormément planté après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ces forêts de plantation, elles étaient plantées par les habitants qui étaient de moins en moins, paysans, bergers, éleveurs, et qui donc ont substitué ce rôle, on va dire, nourricier de la terre avec un rôle de production de bois, d'œuvres, et qui sont aujourd'hui, effectivement, pour la plupart, coupées à blanc pour X raisons qui sont valables ou non valables selon... Les points de vue des personnes, aussi des propriétaires qui sont dans ce contexte-là forestier les premiers à décider de l'avenir de leurs arbres, quoi. Donc quand je dis forêt productive, c'est qu'en effet elle est en majorité productive. Ça veut dire qu'elle peut aussi advenir à du bois énergie, donc ça peut être lié à de la fouage, à des pratiques donc de récolte de bois qui sont anciennes et paysannes, mais ça peut être aussi lié à du bois de papeterie. Et ça a une incidence, quand je dis productive, c'est aussi parce que derrière, il y a une filière qui est organisée et qui est structurée autour de, de l'exploitation forestière qui va jusqu'à, en gros, on va dire de la plantation, ou en tout cas de la gestion, même de la plantation en pépinière, jusqu'à la plantation, enfin, puis la plantation, la gestion, etc., l'exploitation, voire et la sortie des bois du territoire pour de la deuxième transformation, quoi, des trucs comme ça.
Ok, et est-ce que tu peux juste nous préciser les espèces du coup qui sont plantées dans ces forêts? Ouais.
Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en effet, il y avait donc les plantations, mais il y a aussi une bonne part du territoire qui est composée d'essences, on va dire, indigènes, et qui sont donc issues de régénération naturelle. On est à peu près sur 30%, en gros 30% de forêts spontanées, donc qui sont en gros des forêts qui se sont constituées après l'abandon de terres agricoles. On a 30% de forêts de plantation et on a 30% en gros de forêts dites entre guillemets naturelles, mais qui sont en gros des forêts qui ont tout au plus 150-200 ans. Si vous voulez, entre on va dire 700 et 1200 mètres, les essences maîtres, donc c'était le sapin pectiné et aussi le hêtre, une essence qui devrait être majoritaire dans ces montagnes-là. Donc là, vous êtes sur les forêts naturelles. Vous avez pas mal de pins sylvestres, mais qui ont disparu aussi, qui se sont fait défoncer. Mais en ce qui concerne les essences de plantation, les plus connues sont du coup l'épicéa commun, qui a été beaucoup planté donc, après la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de ce qu'on appelle le Fonds forestier national, et donc un programme de subvention qui, grosso modo, filait gratuitement des plants et accompagnait les habitants sur cette plantation-là. Il y a un investissement qui était beaucoup plus important entre les années 50 et 80. Et bref, l'essence maîtresse du FFN, ça a été l'épicéa dans un premier temps. Et ensuite, le Douglas est arrivé. Et aujourd'hui, le Douglas supplante à peu près toutes les essences en termes de sur de la plantation. Donc, selon les dires de personnes qui sont sur le terrain que je rencontre, on est sur du 90% de plantation en Douglas. Donc, suite donc à des coupes à blanc pour la plupart, qui sont liés à un truc, mais je pourrais revenir sur la question du renouvellement forestier, dont on parle beaucoup depuis à peu près 10 ans. Le renouvellement forestier, c'est l'idée que, en gros, vous avez ces plantations qui ont été faites à peu près 60 ans, 50-60 ans. Et en fait, en termes de rotation, enfin en termes de maturité économique, 50-60 ans, c'est la rotation qu'on souhaite avoir pour derrière couper et replanter éventuellement. Et donc, si la période est critique, c'est parce qu'en gros, on est dans plein de massifs, notamment au Massif Central, arriver à ce moment-là, entre guillemets, de la maturité économique des forêts, notamment des anciennes, donc ce qu'on appelle les pécières, donc des forêts monospécifiques d'épicéa. Et donc la plupart des propriétaires ou les exploitants forestiers incitent ces propriétaires à dire en fait, la solution la plus simple, c'est de raser et de reboiser, donc dans ce que vous voulez, notamment du Douglas. Et donc, voilà, donc on a ce gros bordel qui s'appelle le renouvellement forestier et qui consiste à dire, c'est super, vous avez de la maturité, vous allez pouvoir utiliser tout ce fric pour reboiser, etc., etc., etc.
Pour continuer la conversation, quand on parle de forêt exploitée et donc du coup de coupe, etc., ça veut dire qu'il y a un moment, une mise à mort de l'arbre. Et du coup, est-ce que tu peux... vu que c'est un peu ton terrain d'enquête, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'approches la forme de la mise à mort
En fait, la question de l'abattage des arbres, ou en tout cas de l'exploitation de ces forêts, etc., de la mise à mort, elle est liée donc un peu d'abord quand même à mon sujet de thèse, qui n'est pas strictement en tout cas réservé à la question des morts en forêt, mais qui au départ se positionne sur le contexte de crise sanitaire et crise climatique. Donc en gros, en 2022-2023, je pense qu'à Marseille c'était pareil, mais il y a eu des sécheresses assez remarquables, plus des canicules, et ça a eu des conséquences assez importantes ou graves concernant certains peuplements forestiers. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse au départ dans ce travail de terrain, c'était de savoir comment les gens réagissent à tout ça, et notamment, est-ce qu'on peut dire que les gens prennent soin de leurs forêts, ou comment prennent-ils soin des forêts à savoir que soigner, ça peut dire beaucoup de choses. Si déjà on se positionne dans le soin entre les humains, Ça peut recouvrir des réalités qui sont certes, on va dire, très positives ou bénéfiques pour, par exemple, les aptitudes, ou en tout cas la préservation de l'intégrité individuelle ou collective, mais en fait, le soin en tant que tel est aussi inscrit dans des logiques institutionnelles, dans des logiques de contrôle, de pouvoir sur les corps et du coup sur les collectifs. Et en gros, ce qui m'intéressait, c'est de dire, ok, ce terme-là, qui est très ambivalent en réalité, mais qui est en même temps fondamental du point de vue de l'espèce humaine, comment est-ce que on peut le traduire ou l'observer et explorer cette thématique dans ce qui se passe en ce moment quand des forêts dépérissent ? Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'abord essayer de comprendre en gros, comment les gens comprennent ce qui se passe, quoi. Donc travailler sur les modes de perception, les interactions, comment les personnes décrivent, détaillent les phénomènes qui sont en jeu, est-ce qu'elles recourent plus ou moins à des types de savoirs qui peuvent être parfois scientifiques, empruntés aux sciences, ou au contraire liés à leur propre expérience, liés à leur connaissance du milieu, etc. etc. Évidemment, dans ces entretiens, dans le fait de suivre des personnes sur le terrain, dans leur manière d'essayer d'entretenir leur forêt, donc pas uniquement dans des situations de dépérissement, mais dans des situations où, de fait, en fait, on prend soin indépendamment, évidemment, d'une santé qui est dégradée. Il est apparu assez... Enfin, la question de la mort, des arbres, ou en tout cas, ou du dépérissement forestier, ou de la mort des forêts, qui est peut-être un peu fort comme terme, quand même, est revenu systématiquement. C'est-à-dire que, de toute façon, en fait, quand on est en forêt... la façon d'agir va constamment en fait être reliée à quelque chose qui est plutôt en train de mourir ou pas, et qu'en fait l'ensemble même la plupart des activités qui sont même de gestion forestière en tant que telle, si on reste exclusif à la gestion forestière, donc qui consiste en gros à poser une stratégie à un programme de coupe et de travaux de façon très schématique en forêt, en fait tu traites toujours de qu'est-ce que je vais prendre. Et surtout, ce que je vais prendre, ce sont des arbres qui sont eux-mêmes en fait des êtres plutôt des morts-vivants quelque part, et qui ont toujours en fait ce statut ambigu d'entre deux. Comment la mort intervient en forêt selon ces typologies, on a deux grands schémas qui sont identifiés pour désigner, on va dire, les modes de traitement et d'abattage en forêt, qui sont en gros, on va dire, le schéma de type futaie régulière. Donc avec un dispositif qui va être autant lié avec de la plantation, des éclaircies et de la coupe rase. Et vous avez plutôt l'approche futée irrégulière, que d'autres nomment aussi sylviculture mélangée à couvert continu. Donc là, je parle vraiment des modes de gestion, mais dans lesquels sont insérées les typologies d'actions qui mènent à tuer, en tout cas, et à abattre un arbre. Mais en gros, dans ces situations-là, on va plutôt travailler sur, donc, ce que je disais, 50-60 ans. On va considérer qu'on a des éclaircies, en gros, trois éclaircies à réaliser. Donc une éclaircie consiste à désigner à peu près, ça va être 20% du peuplement qu'on aura planté initialement, ou qu'on aura récupéré de je ne sais d'où, etc., d'un héritage, machin, et qui, en fait, est peut-être issu d'une forêt spontanée. Et dans cette éclaircie, vous allez en gros désigner des arbres qui sont, selon vos critères, les arbres qui n'auront pas d'intérêt plus tard d'un point de vue économique. Okay ? Donc là, on est déjà dans un truc où, évidemment, quand on désigne des morts, la question de la désignation, de la définition de ce qui est valable est importante. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on donne comme valeur à ce qu'on va faire crever, quoi ? Il est évident que le moment de l'éclaircie est un moment qui va avoir une moins grande, à la fois légitimité et ampleur que le moment de la coupe définitive, l'autre formulation pour ne pas dire coupe rase, ou coupe à blanc, c'est-à-dire que c'est le... D'ailleurs, la filière ne dit plus coupe à blanc ou coupe rase parce que ça fout trop le bordel. Ce qui va maintenant changer... c'est que parfois on va laisser quelques arbres qui sont donc désignés comme ce qu'on appelle semenciers et qui vont, une fois la coupe quasi rase instaurée, et qui vont servir en fait à relancer derrière une nouvelle génération de plantules, etc. Et donc c'est des arbres qui vont être peut-être vigoureux, etc., qui ont certaines caractéristiques aussi. Et ensuite tu les fais tomber parce qu'une fois que c'est reparti quoi. Mais t'attends 10-15 ans quoi. Donc voilà, vous avez ce mode d'éclaircie, on tape un peu fort, on tape du coup les moches, les plus frêles, enfin c'est vraiment le terme, les dégueulasses. On tape sur tout ce qui n'est pas non plus inscrit dans les objectifs de production. Et donc ça c'est un peu l'histoire quand même enfin une partie de l'histoire de la filière forestière depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris à peu près le même cheminement, je digresse, mais qui a à peu près pris le même cheminement que la filière agricole, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même de grosses similitudes, et ce qui est lié aussi au fait que les corps d'administration des eaux et des forêts sont pour la plupart, en fait, composés de personnes qui sont en réalité des cadres de l'agriculture. Mais par contre, donc, les modalités d'abattage, parce que c'est quand même c'était peut-être ça la question, de tuerie, vont varier de l'abattage dit manuel. Alors évidemment, les gens font passent plus au passe-partout, pour le coup. Ou alors, dans quelques rares situations. Donc le passe-partout, c'est cette scie que vous pouvez tenir à deux. Vous voyez, et en fait, qui doit faire, je sais pas, 2 mètres ou 2-3 mètres. Et puis, très honnêtement, j'en ai jamais vu à l'œuvre, mais je sais que, bon, bref, il y a aujourd'hui des groupes de formation en bûcheronnage collectif qui font ça et qui justement se testent d'abord au passe-partout pour un peu éprouver la difficulté que c'était. Mais donc aujourd'hui, c'est largement, enfin, tout le monde, quasiment en tout cas, qui ne va pas sur des grosses machines, passe par de l'abattage manuel, donc avec des tronçons. Abattage manuel qui va être autant mobilisé par à peu près tous les acteurs en forêt. Les machines qui sont les plus présentes aujourd'hui, c'est plutôt des abatteuses, donc qui font le gros, en tout cas, de l'abattage des forêts dites conventionnelles, et donc des coupes rases.
Maintenant que tu as pu nous expliquer les différents modes de mise à mort d'un arbre, est-ce que tu peux nous dire si tu as pu, comment en fait les gens se lient à cette mise à mort en fonction du mode opératoire de mise à mort de l'arbre ?
Ce que peut-être, justement, j'ai oublié au fil de la dernière réponse, c'était que... c'était pas tant la mise à mort que le fait même que les arbres meurent. Et donc, ce que j'ai aussi suivi, c'est comment les gens vivent ça, le fait que t'as des peuplements entiers qui peuvent dépérir, etc. Et je trouve peut-être que c'est peut-être, ça vaut le coup de remettre ça en perspective, ce truc des dépérissements. Parce que en fait, ce qui m'intéressait et ce que j'avais voulu aborder là à Salagon, c'était le fait que en gros, il y a les bonnes et les mauvaises morts, quoi, grosso modo. Donc il y a une espèce de moralité très importante en forêt qui dit en fait, ce qu'on veut précisément, c'est de récolter l'arbre quand il est en bonne santé, entre guillemets, qu'il est suffisamment vigoureux. Et donc ce qu'on veut, c'est entraîner une bonne mort, c'est-à-dire une mort qui, selon les besoins utilitaires humains, mais donc aussi symboliques, remplissent ces fonctions et donc soient réalisées donc dans les règles de l'art par des abatteurs ou de l'abattage manuel ou des abatteuses. Mais en gros, cette bonne mort, elle est déjà en soi problématique parce que en effet, considérer ce qui est bon ou pas, ça renvoie évidemment à quel est le bon mode de gestion, quelle est la bonne manière de s'y prendre et quelle est la bonne manière de considérer aussi la vie des arbres. Mais plus encore, en tout cas, des végétaux ou encore, de manière générale, des forêts, quoi.
Parce que, du coup, la bonne mort, c'est celle qui serait productive.
Alors, pas selon moi, mais disons que... Pas que, évidemment. Il est évident plus que même, sinon, dans les sphères, on va dire, de les sphères productives au sein de la filière. Je veux dire, aujourd'hui, il y a eu quand même énormément de chemins quand même réalisés. C'est-à-dire que on sait que le bois mort, c'est une chose qui est super, qu'il faut le laisser au sol. On sait qu'il y a tout un tas de processus écologiques qu'on ne connaissait pas, etc., etc. Donc, la bonne mort, même du gros bourrin en production, elle existe, certes, dans un sens exclusif à l'abattage de l'arbre. Mais voilà, c'est évidemment sujet à certaines précautions et à plein de variations. Mais ce qui est quand même vrai, c'est que, par contre, la bonne mort, c'est celle qu'on souhaite, que nous désignons comme étant bonne. C'est plutôt ça qui me semble fondamental. Une bonne mort, ou en tout cas une mort acceptable, c'est celle qui ne nous a pas un petit peu trop échappé, quoi. Et sur laquelle on a une certaine maîtrise, une certaine compréhension, quoi. De la même manière que Ernesto De Martino, il parle à peu près de la même chose sur les saisons et sur l'enjeu des récoltes, comment la récolte est le moment le plus dingue de la vie des gens, en fait, en réalité, parce que c'est ce moment où, si ça foire, en fait, c'est possiblement, en fait, la communauté entière humaine qui peut se retrouver dans une situation catastrophique. Alors, la situation de l'arbre est différente, parce que, alors, de l'arbre forestier, parce qu'on pourrait très bien parler des arbres fruitiers qui ont une fonction largement équivalente et nourricière. Mais l'arbre en forêt, sa bonne mort, entre guillemets, c'est celle qui va permettre en tout cas une réutilisation, que ce soit pour faire du feu, évidemment, et pour faire du bois d'œuvre. En fait, le fait que le bois, ça se bouffe pas, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a un truc qui me titille, c'est-à-dire, il y a un statut un peu symbolique du bois qui est hyper intéressant, notamment dans le fait que la mort est pas non plus juste... c'est pas une fin définitive, quoi. C'est toujours une chose qui va... Enfin, comment dire, un moment qui va se perpétuer en autre chose, et probablement de la vie. Et donc, la question du bois mort, de la bonne mort du bois, qui devient, par exemple, bois d'œuvre, c'est déjà en soi continuer la vie de la forêt, tu vois. Enfin, bah, je pense que dans la façon dont on vit et on coexiste avec, typiquement, des charpentes, des charpentes de bois d'œuvre, ou tout un tas d'édifices, en fait, qui sont constitués de bois... Selon moi, la place que ça prend relative par rapport à nos foyers, à nos habitats, font que, en tant que tel, la mort, en fait, si tu veux, de l'arbre qui devient bois et réutilisé n'est jamais, en fait, véritablement la mort telle que nous la désignons pour un humain. Donc, ces mauvaises morts, ce sont donc, par opposition à la bonne mort, toutes ces morts qui sont insaisissables, inacceptables, et donc qui nous échappent. Thank you. la mauvaise mort n'entraîne pas toujours une absence d'utilité. Alors en tout cas, elle peut être définitivement mauvaise dans les moments où on vient trop tard, ou qu'on du coup on se rend compte que un certain nombre d'arbres sont dépérissants ou déjà complètement morts. Parce qu'en fait, selon les cas, les arbres une fois morts vont juste pas perdre toute leur valeur entre guillemets économique immédiatement. Et donc, tu vois, le sapin au bout de 6 mois c'est fini, mais par exemple un épicéa va pouvoir être garder ses propriétés mécaniques, etc., et de durabilité relativement longtemps, même une fois qu'il est mort. Mais en fait, il est déjà un peu mort, tu vois. Enfin, c'est, donc, bon, on y reviendra après. C'est qu'est-ce que, encore une fois, on veut dire par la mort d'un arbre, puisque ce sont déjà, en fait, il n'y a qu'une très petite partie d'un arbre qui est vivante, en réalité. Puisque, en fait, la partie vivante la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le cambium, et qui est cette couche fine entre, si tu veux, l'écorce extérieure et tout l'aubier et le duramen. Mais en fait, c'est rien, quoi, tu vois. Et donc, ça pose problème. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'un arbre ? Est-ce que c'est aussi un individu ? Et c'est peut-être ça où on pourra y revenir. Pour rebondir encore sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort, en effet, si, c'est encore une fois, c'est la bonne mort depuis le point de vue d'une personne, d'une certaine personne ou d'un certain type de groupe qui... voilà, enfin, emploie la forêt à des visées, à des fins productives, et encore qui l'emploie vraiment à uniquement une fin productive pour faire du bois. Mais en réalité, voilà, il y a encore une fois le bois mort qui a beaucoup d'utilité, qui est reconnu comme tel. On peut très bien choisir de faire ce qu'on appelle des îlots de sénescence ou de vieillissement, parce que on sait que à un moment donné, pour la richesse en fait de ta forêt, même pour ses fonctions, on va dire par exemple, qui s'est strictement lié à des fonctions de production, on sait que c'est très bien en fait d'avoir des îlots d'arbres donc qui sont en train de crever ou qui sont en train de vieillir. Et puis je parle même pas des gens de la conservation qui là pour le coup désignent la bonne mort comme tout à fait autre chose ou qui s'insèrent dans d'autres logiques, quoi.
Mais du coup là, comme tu l'emploies, cette distinction bonne et mauvaise mort, elle est opérée par qui en fait?
Oui, et moi, j'ai une question en complément, c'est depuis quand elle existe, en fait, dans la pensée des forêts aussi, cette question de moralité de la mort pour le vivant. Enfin, est-ce qu'elle a toujours été là ou pas? Et qui, en gros, sont les acteurs décidants de la bonne ou mauvaise mort?
Je sais pas si je peux... Enfin, je pense que cette question, elle est là depuis très très longtemps. Il y a tout un travail qui a été fait sur le blé, et notamment le fait qu'on a trouvé des vestiges de blé dans des sépultures humaines, déjà il y a 20 000 ans, mais en fait, je pense que ça remonte encore. La mort des autres humains, et donc du moins la moralité associée à leur mort, je pense, et là depuis longtemps, quoi. Alors c'est là où c'est parler de morale, c'est toujours un peu délicat, je pense que, enfin, mais ce qui est sûr, c'est que on désigne de façon différente certaines morts et on y associe des valeurs morales, je sais pas moi, culturelles, émotionnelles, affectives, qui sont variées, et que ça, du coup, ça émerge de rapports de force aussi. Mais pas que, mais en tout cas de négociations relationnelles aussi avec ces espèces dont on va être aussi plus ou moins dépendant. Et je pense que la question de la dépendance ou ce que d'autres aussi désignent comme l'hétéronomie, ce qui est un terme un peu plus... qui fait un peu terme stylé technique, quoi, mais qui renvoie à ça, c'est-à-dire dès lors que nos vies dépendent en fait d'autres espèces et de leur vitalité et du fait qu'elles puissent certes répondre à nos exigences, mais donc quand même avoir une vie qui corresponde malgré tout à ce qui semble être une vie en bonne santé, là, à ce moment-là, on a nécessairement un enjeu à savoir, c'est quand est-ce que c'est bien ou pas pour nous, quoi. Voilà, je sais pas si ça répond bien, mais...
Et du coup, pour peut-être revenir à ton territoire dont tu parlais au tout début et à cette recherche que tu mènes avec les habitants, est-ce que tu peux nous raconter comment ces gens qui vivent dans ce territoire qui est constitué à 60% de forêts, dans lequel il y a plein de forêts différentes et donc aussi plein de morts différentes, quel est le rapport des habitants de ces forêts avec les morts forestières ?
en fait, si on moralise d'une certaine manière la mort de l'arbre, parce qu'on n'y est pas non plus habitué à mettre à mort une espèce végétale aussi de cette ampleur-là, donc à tout un tas d'attributs aussi, donc une symbolique qui est très pesante en fait sur la façon dont on les considère, bah en fait peut-être que toutes les morts forestières sont mauvaises, tu vois. Et c'est ce qui aussi explique une certaine méfiance ou défiance des habitants que je peux rencontrer relativement à ce qu'ils imaginent comme étant la perception écolo de ce que c'est que d'abattre des arbres en forêt. Et c'est assez drôle parce que régulièrement, du moins des personnes qui s'identifient pas avec des pratiques alternatives, etc., elles mobilisent cet exemple-là pour dire « Non mais en fait, aujourd'hui, on peut même plus abattre un arbre parce que des gens vont nous considérer comme... en gros, des meurtriers. » Et c'est vrai que ça peut arriver, notamment à des personnes qui vont être en abatteuse et qui vont être sollicitées, voire légèrement, chahutées par des habitants, des passants ou des promeneurs qui sont choqués devant ces situations-là, quoi. Déjà, j'évite de répondre à ta question pour ça comme ça, mais ça ouvre déjà, rien que ça, c'est un truc assez énorme, parce que moi, je me dis, mais en fait, peu importe qui a raison, mais qu'est-ce qui fait que c'est si choquant, notamment, de voir une abatteuse en forêt, quand on n'y est pas du tout habitué, et pour quelle raison, ça va faire beaucoup plus de mal à des gens, voire parfois même rien que de voir de l'abattage manuel, ça affecte les gens. Et je pense que c'est lié aussi à, probablement, aux représentations, à ce qu'on met derrière la forêt, qui serait un peu encore le domaine de la nature sauvage, mythifiée, idéalisée, enfin, en partie en tout cas. Je pense que ça pèse aussi beaucoup sur notre rapport au fait d'exploiter des forêts, et donc de voir que cette nature, certes désenchantée, que nous avons abandonnée dans la diversité des milieux urbanisés et même ruraux dans lesquels on vit, fait que, je pense qu'il y a un sujet, quoi. Il y a un vrai sujet politique, ou voire il y a un sujet peut-être parfois, quelle que soit la position que sont les gens, d'un certain aveuglement à ce qu'on est en train de désigner par vraiment une forêt qui serait naturelle, quoi. Parce qu'en effet, même dans les forêts dont on a parlé tout à l'heure qui sont dites naturelles, en réalité... tous les systèmes forestiers sont anthropisés en France, quoi. Je veux dire, ça n'existe pas une forêt vierge, ça n'existe pas une forêt primaire, quoi. C'est-à-dire, on est dans cette réalité-là où tout a déjà été manipulé, transformé, rasé, etc. par des communautés humaines.
Et du coup, il y a quand même un peu un paradoxe que tu as peut-être effleuré tout à l'heure en parlant du bois et donc de ces nouveaux usages du bois. C'est que le bois, il est quand même hyper présent dans nos espaces domestiques. Et que du coup, là, il y a un peu le paradoxe de nos représentations de la forêt qui est sauvage, qu'il ne faut pas toucher et qu'on s'offusque de voir une abatteuse. Et pour autant, on veut du parquet, on veut des meubles Ikea, on veut un sapin de Noël... Et sans peut-être capter cette interdépendance-là entre nos représentations de la forêt, assez idéalisées, et en même temps les besoins et les usages qu'on fait tous les jours du bois et de ce que ça implique, du coup, comme mort.
Évidemment, les gens sont moins touchés, par exemple, par le fait de mettre à blanc une population monospécifique d'épicéa qui n'a jamais été éclaircie et donc qui présente tout un tas de fragilités, etc., etc., et qui va rapporter un peu de sous à des gens qui... Alors, c'est quand même vachement important. C'est plutôt une forêt vraiment de toute petite superficie, là où je suis. Donc, la moyenne, c'est 1,5 hectare par propriétaire. Donc, ça, vraiment... Du coup, c'est une forêt un peu populaire, tu vois. Et c'est pas anodin, je trouve. Bon, bref. Mais... Donc, les gens, ils vont prendre leur petit pécule, machin, etc. Mais globalement, les gens sont... Je dis pas qu'ils acceptent, parce que c'est un peu le problème, c'est quand tout ça se multiplie. Mais ils sont moins... ça porte moins à caution que... Quand, et ça a eu lieu sur notre territoire, t'as 17 hectares de d'étrées sapinières qui s'est constitué spontanément sur 150 ans et qui est coupé par une coopérative forestière. Enfin, on n'en a pas parlé encore des COP, mais c'est quand même, c'est quand même un acteur très problématique au sein de la filière. Et pour plein de gens, hein, pas que les gens qui sont hors du système économique, et qui va du coup dire on va faire de l'éco-reboisement parce que c'est un peuplement dit pauvre selon la nomenclature du plan de relance. Ouais, je balance des trucs, mais en vrai, ça, c'est énorme, tu vois. Et donc, on va mettre ça à blanc et on va foutre des essences dites adaptées au changement climatique. Donc, en gros, grosso modo, généralement, le schéma, c'est du Douglas, selon les altitudes, du Mélèze, quand t'es un peu en hauteur, et sinon, un autre, ou du pin à l'Aricio. Et tout autour, on va mettre du feuillu, parce que ça rend bien, et que c'est mignon d'avoir du feuillu en bordure, quoi. Donc ça, évidemment, les gens, ils sont vachement plus marqués par ça. Parce qu'il y a quand même vraiment une sensibilité à et qui est franchement plutôt partagée par n'importe quel type d'habitant, tu vois, à qu'est-ce qu'on désigne par, en tout cas, bah, du coup, une bonne forêt ou une belle forêt ou une forêt qui a une sorte de une valeur intrinsèque, donc indépendante de ce qu'en font les humains et qui, parce qu'elle a un certain âge, qu'elle a une certaine esthétique, qu'elle touche à certaines représentations, je pense, esthétiques, et bah on va vouloir la défendre aussi pour un tas de raisons, donc, entre guillemets, aussi en prendre soin, quoi.
Que tu reviennes plus spécifiquement sur qu'est-ce que tu as pu observer comme, oui. comme mise en place de rituels autour de la mort de ces personnes qui y sont confrontées sur le territoire dans lequel tu vis et dans lequel tu as des liens avec des gens et même toi, peut-être avec la forêt, quoi.
Devant cette régularité de phénomènes de dépérissement ou problématiques, ce qui m'a semblé apparaître, c'est que bah, en fait, les gens font des trucs qui sont pas tant des... Enfin, il y a toute cette question, est-ce que c'est rituel ou des pratiques un peu funéraires, tu vois ? C'est pas si simple que ça de dissocier, parce que déjà, souvent, bah, les personnes sont toutes seules, donc est-ce qu'on peut en parler de rituel ou pas ? Bref, c'est un bordel, mais rentrons pas là-dedans. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est que dans les attitudes, donc, c'est-à-dire dans des formes de... Comment dire ? Des manières de se comporter qui ne se réclament pas d'une logique funéraire. Et en fait, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de dire, mais ok, est-ce qu'on peut voir des similitudes, des analogies entre la façon dont les gens se comportent devant ces morts-là en forêt et la façon dont, en tout cas en anthropologie de la mort, ou en tout cas dans certains écrits, on a ethnographié, décrit les façons dont les peuples humains se comportent, quoi, avec leur propre mort humaine. C'est plutôt qu'on fait des trucs sans s'en rendre compte, et on a des attitudes qui sont en fait reliées à quelque part à une forme de chorégraphie funéraire qui est incorporée, qui est probablement liée évidemment à nos façons même d'avoir appris à nous comporter devant des morts ou à préparer notre comportement devant des morts et qui en fait réapparaissent sous certaines formes ou de façon peut-être un peu plus étouffée, on va dire, étouffée en forêt. La question de départ, c'est bah, qu'est-ce que ça nous fait ? Est-ce que ces morts-là, elles peuvent s'apparenter à une mort humaine aussi ? Donc là, c'est la question un peu de fond. C'est-à-dire, étant donné que une question qui est un peu importante, c'est quoi le statut qu'on donne à des plantes ? C'est quoi le statut qu'on donne à des animaux et à des humains ? En gros, c'est quelle est leur importance et la valeur qu'on donne à ces vies relativement à la nôtre et au fait que, du coup, on a des liens de dépendance, etc. Regarder comment on se comporte vis-à-vis de la mort, ça peut nous renseigner sur bah, qu'est-ce qui est en jeu véritablement, surtout quand cette mort, donc, elle est accidentelle, elle est problématique, et donc qu'elle intervient parfois avec fulgurance dans le cours normal de nos vies. Et donc il y a tout un enjeu de réflexion sur bah, qu'est-ce que c'est que cet événement, est-ce que c'est de l'événement catastrophique, et qu'est-ce que ça comment ça percole avec aussi finalement une perception et des représentations de nos propres fins relativement non seulement à notre propre fin en tant que personne humaine, et donc espèce corps biologique et biographique, quoi, et en même temps espèce humaine qui est peut-être est en train de se poser tout un tas de questions par rapport, non peut-être pas à sa propre fin, mais enfin si, quand même un petit peu. Mais ce qui m'intéressait, c'était de dire, bah, ok, peut-être que là, en fait, sans s'en rendre compte, les gens sont, donc, d'une part, en train bah, de faire des trucs où ils sont un peu en train d'honorer les morts, quoi. Donc, il y avait des gestes de respect à l'égard de ces morts forestiers. Donc, par exemple, c'est le fameux bûcheron qui va faire un abattage manuel dans une sapinière et qui m'explique que systématiquement, ou en tout cas très régulièrement, il va susurrer des mots, ou en tout cas, il va les avoir en tête, pour, en tout cas, bah, marquer son respect à l'égard de cet arbre dont il va prendre la vie. Donc, tu vois, il y a ce genre de choses. Ou ça peut être avec une cueilleuse de champignons, où, à un moment, elle a volé, enfin, en tout cas, on parle de ces choses-là, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois, avec la plante, notamment, quand tu lui arraches la vie. Et donc, il y a souvent cette idée de dire, bah, merci, de reconnaissance, etc. Donc là, on est plus, donc, honoré, respecté, c'est aussi réciprocité. Et donc, c'est très présent, en fait, hein, chez un mort. Évidemment, il y a toujours ce lien de... Bah oui, évidemment, je t'honore parce que, aussi, je te dois, quelque part. Tu vois. Et donc, ça a lieu. Mais ça a lieu aussi dans la façon dont on doit un peu ordonner les gestes. Alors, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais que c'est pas forcément là où j'ai voulu prendre le plus de temps, mais c'est que il y a toute une façon de se comporter corporellement en forêt, voire même de se vêtir, de marcher en forêt, de regarder en forêt. Tout ça, c'est quand même très codifié, et c'est lié aussi au fait que c'est un environnement qui s'est fait quelque part, qui est aussi lié à des rapports de domination, beaucoup de rapports de domination liés à l'expertise. Et donc, en fait, les gens essayent de tous imiter celui qui pourrait être l'expert et donc qui sait tout de suite comprendre la forêt. Donc, il y a tout un truc comme ça, genre, qui sait qui comprend le mieux la forêt. Bon, c'est un autre débat. Mais donc, dans ça, les attitudes vis-à-vis de la forêt, il va y avoir un autocontrôle, si tu veux, qui se met en place. Et pour moi, cet autocontrôle, c'est exactement l'autocontrôle du moment du deuil ou... Encore une fois... Peut-être sur interprétation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un contrôle corporel qui est assez présent. Et c'était un exemple que j'avais, qui m'avait frappé, mais il y en a d'autres. C'était notamment celui d'une prof de BTS forestier. Ces BTS-là, donc, ils ont un an ou deux de un an de formation forestière. Et elle me dit, c'est marrant parce que systématiquement, je les vois, ils prennent du bois mort ou voilà, et ils adorent le péter, tu vois. Et donc péter le bois mort ou jouer avec, etc. Et pour elle, en fait, c'est un truc qui ne se fait pas. C'est un peu insupportable. Mais en fait, il y a une vraie attitude à avoir vis-à-vis, tu vois, de l'endroit où t'es. Donc voilà, bon, ça, c'est un peu l'honneur des morts. Donc soit on honore les morts, mais aussi il y a un pan des attitudes qui concerne plutôt la façon dont, on se rassure, on se console nous-mêmes vis-à-vis des morts. Et donc ça va, par exemple... Alors, ça peut désigner des formes, je sais pas moi, d'esquive aussi, c'est-à-dire de dissimulation aussi de la mort. Donc ça peut être par exemple, notamment toutes ces personnes qui n'interviennent même pas en forêt, qui abandonnent les espaces qui sont en train de dépérir, mais non pas, enfin presque dans une attitude de retenue ou d'évitement de l'événement. De l'événement, quoi. C'est vrai que ça, c'est peut-être un truc où j'extrapole un peu, mais dans la plaine d'Ambert, vous avez des endroits où il y a eu énormément de dépérissements forestiers, quoi. Et en fait, à ces endroits-là, on a véritablement des gens qui, qui sachant l'information, est-ce qu'ils se refusent d'y aller ? En tout cas, ils n'interviennent pas. Et donc, petit à petit, quand t'es avec des personnes plutôt qui sont, elles, en forêt régulièrement, on voit que tu as vraiment des morceaux du massif bah, qui tombent un peu en lambeaux. Et en fait, cette attitude-là, elle est à relier au fait que, historiquement, souvent, c'est des forêts qui sont héritées. Donc les personnes qui ont hérité de ces forêts n'ont jamais voulu y toucher, quelque part par respect, entre guillemets, pour leur mort humaine. Et qu'après 60 ans, n'ayant rien fait, et bah, elle se, en fait, elle, conserve à peu près cette même attitude. Attitude qui finit par, en fait, presque être reliée à un espèce d'évitement, parce que, en gros, mieux vaut ne pas voir ce qui se passe parfois quand tu sais que, véritablement, tu viens de perdre probablement, je sais pas, c'est des dizaines de milliers d'euros, mais au fond, c'est plus que ça. C'est tu viens de perdre du temps, enfin, du temps familial, donc de l'héritage, enfin, des trucs qui sont liés à de la parenté, quoi. T'as tout ce truc qui est que la forêt, étant donné sa temporalité, en fait, elle désigne évidemment autre chose qu'elle-même, quoi. Elle désigne aussi le fait qu'elle est souvent, dans, en tout cas dans mon territoire, issue de successions, d'héritages, et donc d'histoires familiales qui ont été marquées par différents événements, etc. Et donc, perdre ça, ça peut être émotionnellement un peu dur, quoi. Voire décourageant, vis-à-vis de même de propriétaires qui sont certes dans une logique conventionnelle, mais qui... se retrouve quelque part à avoir perdu une, entre guillemets, une partie d'eux-mêmes ou de leur parenté. Il y a des émotions fortes qui sont associées à la mort de forêt ou d'arbre, et que souvent l'expérience du deuil, ou du moins elle peut s'exprimer au-delà même de l'événement, en allant par exemple à nouveau encore rendre les honneurs, ou en revenant voir les morts, etc. Et ça, je l'avais un peu vu sur un exemple, notamment c'était l'exemple des 17 hectares dont je parlais tout à l'heure, avec un jeune gestionnaire qui était, qui expliquait la situation et ce qui s'était passé. Et en fait, dans ces mots, il y avait vraiment quelque chose de violent, quoi, qui s'était passé, et qui pouvait pas en même temps s'empêcher de venir constater ce qui avait été planté, et voire même d'ajuster les plans, considérant que il y avait pas, le travail était pas fait même par la coopérative qui avait installé ces plans-là. Et donc, tu vois, il y a un peu ce truc de, en fait, moi aussi, je peux aussi remettre des fleurs, quoi, tu vois, sur les sépultures qui sont abandonnées. Tout ça, ça m'a quand même amené à me dire, OK, il y a tout ça, mais en même temps, il y a un truc qui est particulier, c'est qu'évidemment, une mort humaine et une mort végétale, c'est pas tout à fait la même chose. Et encore plus, une mort d'arbre, pour des raisons qui sont, on va dire, liées au statut particulier de l'arbre, statut à la fois symbolique, utilitaire, etc., etc. Et donc, pour le faire assez rapidement, ce qui m'a interpellé, c'est de dire, OK, en fait, il y a des morts, il y a des phénomènes qu'on désigne comme ça, mais en fait, si on prend ce truc de la mort ou même du dépérissement, c'est-à-dire du coup du mourant, quelque part, c'est un truc assez ambigu, quoi. Parce que c'est ambigu parce que, en tant que tel, l'arbre, donc, ce que j'ai pu déjà dire, c'est que c'est pas vraiment un individu, c'est plutôt une constitution, un collectif d'espèces en symbiose. Et en plus, en lui-même, l'arbre, donc non seulement, si vous voulez, c'est pas un individu, mais la mort de l'arbre n'est pas... étant donné que c'est pas un individu, ça a pas vraiment de sens de la circonscrire comme un avant et un après. Donc, d'abord, l'arbre est un mort-vivant, évidemment, ça, il faut s'en souvenir, mais en plus de ça... il est au centre d'interactions vitales, constantes. Et je veux dire, nous-mêmes, d'ailleurs, Mais donc la limite entre le moment où il est vraiment mort ou pas, elle est assez difficile à avoir. D'autant plus que quand on va valoriser l'arbre en lui-même, le bois, bah, en fait, on s'appuie sur des cellules qui sont certes mortes, mais qui en fait ont certaines propriétés du vivant, quoi. Et donc, ce qui fait que bah, c'est assez chelou en fait de pouvoir désigner l'événement. Et donc, on voit bien que dans cette ambiguïté-là, elle est aussi liée au fait que nous n'avons pas les capacités de perception, quelque part, pour vraiment décider. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une mort évidemment biologique et une mort sociale. C'est-à-dire que nous désignons la mort sociale de l'arbre ou d'une forêt, et que ce moment précis, il est un peu, on va dire, au centre du problème. C'est-à-dire que parce que la mort biologique est problématique, ou en tout cas incertaine, alors ça veut dire que ce qui compte véritablement dans ce qu'on voit, c'est surtout la désignation de la mort sociale. Et donc, que c'est pas surprenant, du coup, de voir un certain nombre d'attitudes particulières qui ressemblent à ce que nous faisons pour les humains. Mais surtout, ça va, du coup, aussi amener à d'autres problèmes qui ont été désignés déjà dans des travaux en anthropologie de la mort et qui concernent ces trucs de, bah, à la fois de qu'est-ce que nous désignons comme mort. Donc ça, c'est la question de l'individu et qui, en fait, est très propre, qu'on pourrait circonscrire en tout cas à une culture occidentale, mais quand je dis occidentale, en vrai, encore une fois, je pense que ça peut être méditerranéen ou pas, mais ce dont on se rend compte, c'est que nous sommes d'une certaine manière assez obnubilés par l'idée que, donc, d'abord l'idée implicite que la mort est un événement, et qu'il y a un avant et un après la mort, et que déjà ça, c'est un peu chelou de penser ça, au fond. Et notamment parce que bah, les sciences médicales, biologiques, écologiques, etc. nous amènent à comprendre que, en fait, ça, c'est pas si vrai, quoi, ce que je viens de dire juste avant. Et que, en fait, l'individu ou la personne, c'est une sorte de réalité qui ne peut pas être... Enfin, qui est inséparable, quoi. C'est-à-dire, tu vois, il y a un corps, j'ai mon corps, j'enlève le bras, ça, ce n'est pas mon corps, quoi. Enfin, c'est ça, l'idée de la personne, qui est très importante, et qui fait que, finalement, quand nous devons nous confronter à de la mort en forêt, bah en fait, on est emmerdé parce que ce qu'on voit comme un arbre, en réalité, ne devrait pas être identifié comme ça. C'est plutôt un arbre au sein d'un peuplement, dans des interactions particulières, et qui va coexister, et donc, et qui va, du coup, c'est pas tant la vitalité de l'arbre, autrement dit, qui compte, que la vitalité d'un milieu. Et donc, pour nous qui resserrons les choses à l'individu, c'est déjà difficile. Et un autre aspect qui m'avait semblé intéressant, c'est tout ce truc de... En fait, du temps suspendu qu'impose aussi la mort, du coup, un peu incertaine des arbres, ou en tout cas la mort en forêt. C'est-à-dire que comme c'est comme on a des difficultés à préciser exactement ce que c'est, ou du moins la désignation sociale, elle nécessite en tout cas un certain nombre de conventions morales, culturelles pour dire qu'est-ce que c'est. En fait, il va y avoir un décalage, ou du moins en fait une possibilité de décalage, une marge entre bah, ce que quelque part un savoir officiel va désigner comme la mort et ce qu'est la réelle confrontation à la fois en termes de perception et donc d'interaction avec une forêt, quoi. C'est-à-dire tu es en forêt, tu es face à ça, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et en fait, et donc, ce truc-là, de la marge, en tout cas, du moment de suspension, ça a été, du coup, désigné comme la liminalité ou la liminarité. En réalité, je ne sais jamais trop R ou L, mais je crois que c'est liminalité. Et c'est, en fait, ce que certains, en gros, anthropologues ou d'autres chercheurs, en gros, ont désigné comme cette espèce de moment où le mort n'est pas tout à fait mort. Et en fait, le collectif en lui-même est dans une phase, en gros, d'entre-deux. Qui consiste en fait à et qui doit servir en tout cas à quelque part permettre non seulement au collectif de dépasser cette situation, mais au moyen en fait de certaines résolutions, c'est-à-dire bah, de non seulement de tous les honneurs, de tous les respects qu'on peut faire aux morts, mais à travers aussi tout un tas de pratiques qui consistent à devoir, on va dire, gérer la peine et la perte. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce truc de la liminalité, c'est que ça désigne au fond aussi un moment qui va devoir être collectif. Et donc, c'est donc un processus social et collectif où la communauté en elle-même, elle doit quelque part dépasser la situation de la mort. Et ce qui est assez intéressant en forêt, c'est qu'au fond, on pourrait imaginer que ce temps-là, particulier de la crise sanitaire, écologique, etc. En fait, c'est un temps de la liminalité où le collectif en fait se repense, est obligé de se repenser. Et que nous sommes tous en train, à plus ou moins, de négocier notre rapport à la mort, quoi. Et que ce rapport-là, il n'est pas simplement circonscrit à celui des arbres et des forêts, mais en fait à ce que nous désignons comme mort en société, quoi. Est-ce que cette liminalité, elle se referme ou pas? C'est aussi le point de négociation. Et donc, il y a des rapports de force sur comment est-ce qu'on résout finalement ces situations, et que donc des entités plus ou moins, entre guillemets, puissantes, ou en tout cas dominantes, ou des voix dominantes vont pouvoir quelque part imposer l'interprétation définitive et donc les actions à mettre en place pour un moment résoudre ces morts-là. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut comprendre aussi, en tout cas en complétant tout un tas d'autres manières de voir des conflits, par exemple, d'usage ou collectifs en forêt, que cette liminalité, en fait, elle est là, elle est complètement là, elle est une mise en suspens, et que cette mise en suspens, elle ne peut pas se refermer tant que nos propres vies sont considérées comme aujourd'hui hautement fragiles et probablement, très incertaines, quoi.
Joyeux Noël avec vos sapins. Cette émission va quand même être diffusée le 23 décembre de 15h à 16h sur Radio Galère. Et du coup, on peut inviter tout le monde à regarder son sapin et à se poser des questions sur sa propre fin.
Joyeux Noël!
Dicoty, c'est fini pour aujourd'hui, mais aussi pour cette année. On est toujours joignable à l'adresse dicoty@etik.com, dicoty@etik.com, et en replay sur le site de Radio Galère. Un très grand merci à Michaël et à vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute.
Dicotylé d'ondes, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'être resté à l'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les émissions et leurs références sur radiogalère.org. Dicotylé d'ondes, c'est tous les 4e mardis du mois en ligne ou sur 88.4.
Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber dans un pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Elle roula, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Ah, stupide créature, j'ai mis l'animal cornu, t'as défoncé ma toiture, et me voici faible et nu. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot comme un gros ver rongea creuse à sa chambrette, afin de passer l'hiver. Ah, mange-moi, dit la pomme, puisque c'est mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février. Il en sortira, je l'espère, de jolis petits pommiers. Il en sortira, je l'espère, de jolis petits pommiers. Il en sortira, je l'espère, de jolis petits pommiers.